Alain Baraton pour La Main Verte. Bonjour Alain.
Bonjour Laetitia, quel plaisir que de vous retrouver.
Vous faites vil flatteur, vous dites ça à chaque fois.
Mais je le pense, je vous vois rosir, vous êtes merveilleuse. Non, je le pense.
Alain, il y a des questions, il y en a beaucoup aujourd'hui autour des jardins. On va les prendre en note. Alors Hélène a un néflier du Japon d'une bonne trentaine d'années. Il a fleuri à foison, mais depuis plus de 10 ans, le fruit orange devient noir et rabougri. Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
J'ai ma petite idée. Alors déjà, l'occasion de rappeler qu'il ne faut pas confondre le néflier du Japon, qui a des petits fruits orange merveilleux, avec le néflier commun qui produit les nèfles, qui sont des fruits, très honnêtement, que l'on aime généralement que moyennement, d'où l'expression « compter pour des nèfles ». Revenons donc à notre néflier du Japon. Quels sont les symptômes ? Eh bien, ceux d'une maladie cryptogamique, donc à partir de champignons, la tavelure. La tavelure est favorisée, suivez mon regard, par les étés chauds et humides. Vous avez compris que là, on est en plein dedans. Alors, je sais qu'au sud et dans le sud-ouest, il y a de belles éclaircies, et même très soleil sur la Côte d'Azur, mais partout ailleurs, nous avons un temps pourri. Je ne vous dis pas les maladies à base de champignons qui vont infester pommes de terre, tomates et compagnie, cette année, ça va être une catastrophe. Donc là, on a affaire à un cas de tavelure. Que faire ? Simple sans l'être. On coupe, bien entendu, les parties contaminées. On n'oublie pas à l'automne d'évacuer en dehors du jardin les feuilles et les fruits tombés sur le sol. On profitera également d'un petit coup de sécateur pour aérer le végétal, pour que le champignon ne puisse pas trop s'implanter et donner de l'aération dans le végétal. Et puis au début du printemps, on fait une petite pulvérisation de purin de prêle. La prêle, c'est une plante que l'on trouve le long des chemins. On fait un purin, on laisse macérer. Si on trouve comment faire sur Internet, il n'y a aucune difficulté. Et logiquement, on n'empêchera peut-être pas la tavelure de revenir, mais on va peut-être limiter sa propagation.
Enfin là, d'après ce que dit Hélène, ça fait quand même plus de 10 ans que ça arrive.
Oui, mais une fois que c'est implanté, c'est pas évident, d'où l'importance d'aérer le végétal. Il n'y a rien de mieux que le soleil et le vent pour sécher un végétal. C'est l'ombrage, l'humidité qui favorise les champignons.
Alain, vous venez de dire qu'il y allait y avoir pas mal de maladies pour les plantes
ça
à venir.
C'est une catastrophe.
Pourquoi?
Parce que en temps normal, vous savez, nous avons un rythme des saisons. Au printemps, le végétal produit des fleurs en grosse quantité, il pleut souvent, la nature s'équilibre. En été, on a l'habitude d'avoir de la sécheresse, on a l'habitude d'avoir des sols qui se craquellent. Tout ça a été prévu par les végétaux qui se sont adaptés à la situation. Et puis arrive l'automne, et l'automne, le végétal est un peu plus fatigué, il a produit des fleurs, des feuilles, il s'est développé, il va entrer en dormance. Observez vos tomates dans votre jardin, car je sais que vous avez un jardin. En été, généralement, vous n'avez pas de problème avec les tomates, elles sont belles, elles sont rouges, elles sont sublimes et elles commencent à se dégrader à l'automne alors qu'elles n'ont pas encore gelé. Elles sont déjà attaquées par la maladie avant même le gel. Il est impossible ou presque de cultiver des tomates dans un jardin en novembre. Eh bien cette année, ceux qui ont des tomates en extérieur et qui récoltent les fruits, il n'y en a pas tant que ça. Non. La maladie est déjà là. Le problème, donc, humidité, chaleur, on a une des conséquences terribles de cet été pluvieux anormal.
Et c'est normal, par exemple, c'est ce qu'on voit actuellement pour les vignes, avec le mildiou.
Ah, est-ce que c'est lié ? Ah, tout à fait, tout est lié. Il y a toujours eu des problèmes de mildiou, de idiome, de tavelure. Ce n'est pas d'aujourd'hui, simplement cet été frais, l'absence de soleil. Je vous rappelle que s'il pleut, ce que je veux dire est un pléonasme, c'est qu'il y a des nuages. S'il y a donc des nuages, il n'y a pas de soleil, donc la terre ne se réchauffe pas, la terre ne s'assèche pas, et les maladies en profitent pour se développer. Regardez, par exemple, c'est pas très agréable de dire ça le matin, mais regardez l'organisme humain. Quand de champignons sur le corps vont se développer là où justement la lumière ne passe pas. Oui, mais on peut comparer de temps en temps, malheureusement, les hommes et les plantes. Voilà.
Et alors, il y a une question d'Alain, qui n'est pas vous. Mon jardin de plus ou moins 600 mètres carrés a subi les méfaits des larves de hanneton. 70 à 80% de la pelouse a en effet disparu. J'ai retourné la terre à l'aide d'un croc et découvert une invasion de larves. Y a-t-il un moyen de se protéger de cet insecte ?
Alors, il est vrai que les hannetons, mais j'adore les hannetons. Je me rappelle quand j'étais enfant, on se promenait dans la campagne. On voyait les troupes.
C'est ça, un gros bruit là.
Oui, et on les voyait sortir. C'était spectaculaire. Et on était suffisamment bêtes à l'époque pour les attraper et les épingler sur un bouchon. Voilà, c'est un peu bête. Il faut les regarder. Eh ben, on est un peu cruel quand on est gamin. Toujours est-il que les hannetons peuvent vous détruire un terrain de foot en quelques jours seulement. Vous n'avez pas idée des dégâts sur un gazon. Alors que faire ? Eh bien, on fait simple. On prend un motoculteur, on prend un croc, comme a fait notre ami, un râteau, et on retourne la terre. Et les oiseaux, eux, vont se charger à votre place d'éliminer les bestioles. Et oui, les oiseaux adorent se délecter d'un ton. Rendons donc à ces animaux, eh bien, de temps en temps, de la nourriture. Les taupes également, je sais. rentrer. Une fois qu'elles sont venues, faut qu'elles retournent chez elles, c'est pas simple. Mais les taupes aussi mangent quantité de hannetons, donc taupe, oiseau, à la main, on peut le faire également. On retourne, si vous dérangez les habitats, vous devriez limiter la prolifération des hannetons, mais il est vrai que on ne va pas encore mettre des produits dans la terre. Soyons clairs, il y a des incendies épouvantables en Grèce et en Turquie. Il pleut de manière inhabituelle dans certaines régions de France. On va pas en rajouter une couche en polluant la terre, la mer ou l'eau.
Tout ce que vous voulez. Voilà.
Bah oui.
Alain Baraton, Jean-Charles a une salle de bain avec très peu de lumière. Il aimerait mettre des plantes. Alors, qu'est-ce que vous lui conseillez?
Le plastique. Non, je vous assure, vous mettez des plantes en plastique, ça fera le même résultat. Les plantes ont besoin de lumière. Pas de lumière, pas de plantes, ne rêvez pas.
Donc,
question suivante.
Bon, Jean-Charles, vous en êtes pour, pour votre question.
Non, mais il y a toujours quelqu'un qui veut dire « Oui, mais telle ou telle plante, j'avais une grand-mère qui avait ce qu'on appelle une misère qui poussait. » Non. S'il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de plante. Ce n'est pas possible, sauf les champignons. Et encore, les champignons sont des fausses plantes. Mais avez-vous, vous, Laetitia Gaillet, envie d'avoir des champignons dans votre salle de bain?
Absolument pas.
Nous sommes d'accord.
Alors, Sylvain, j'ai acheté en mars des pieds de cassis pour en faire une haie. Je les ai mis en jauge et les c'est tel quel. Depuis, les plants ont fructifié. Puis-je tout de même les mettre en place ou faut-il attendre l'hiver?
Nous résumons la philosophie de Sylvain. Il achète des cassissiers, il ne s'en préoccupe pas et là, il se rend compte qu'ils existent. Eh bien non, il n'y touche surtout pas. Il profite de la récolte qui a dû passer et il attendra l'hiver, ou plutôt l'automne, maintenant pour les planter.
Un dernier mot sur une revue, Alain.
Que j'adore, La Salamandre. Le numéro donc actuel est consacré aux 1001 guêpes, c'est fabuleux. On y apprend quantité de choses. J'ai appris par exemple que 90% des 8000 espèces des d'hyménoptères sont des guêpes, ou encore que les guêpes en grande majorité sont solitaires et ne font pas de nid, ne fondent pas de colonies non plus, et n'ont pas de dard venimeux. C'est passionnant, donc c'est le numéro actuel de la revue Salamandre.
Merci Alain Baraton pour La Main Verte et à demain.
À demain.